Et oui, vivre en colocation avec d'autres étudiants sur une paroisse, c'est la proposition des fraternités étudiantes de Toulouse. Les recrutements pour l'année prochaine sont ouverts. On en parle tout de suite avec mes invités. À mes côtés en studio, le père Damien Verlet. Bonjour père.
Bonjour.
Vous souriez.
Bah,
j'ai dit une bêtise.
Non, non, c'est le matin, c'est une belle journée qui commence, on sourit quoi.
On sourit, bah, vous avez raison, on sourit à la vie. Vous êtes l'aumônier de la pastorale étudiante de Toulouse, ça rassemble combien de jeunes ça?
Alors il y a 110 000 étudiants à Toulouse.
J'ai l'impression que le père Damien Verlet réfrène un fou rire, j'ai dû dire
non,
une
non.
bêtise.
Non.
Combien vous dites?
110 000 étudiants à Toulouse en temps normal, mais là j'imagine qu'il y a au moins la moitié qui sont partis de Toulouse depuis quelques mois.
Ouais.
Et la pastorale étudiante, dans les mois les plus fastes, on touche 1000 personnes à peu près dans l'année quoi.
1000 personnes pour la pastorale étudiante. En ligne également avec nous, j'accueille Laure Desbazeilles. Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Alors vous n'êtes pas étudiante, hein, mais avec votre mari et vos quatre enfants, ah ça y est le père rit, vous vivez depuis un an avec les étudiants dans ces fameuses fraternités. Vous nous direz pourquoi vous avez fait ce choix tout à l'heure. Et au passage, merci hein, Laure de bousculer vos contraintes de conduite d'enfant pour être avec nous ce matin. Alors on va
avec
pas parler.
Plaisir.
Merci. On va pas parler des étudiants sans se poser la question de leur état. Hein. On en parle beaucoup, on entend beaucoup qu'ils ne vont pas bien, qu'ils souffrent, père. Vous les voyez quotidiennement, comment est-ce qu'ils vivent cette période trouble?
Alors, il y a un côté déboussolé en fait. Hein. Beaucoup, le mot qui revient souvent, c'est la question du sens. Voilà, je cherche du sens. C'est très variable hein, les situations dramatiques auxquelles on fait face. Des personnes qui ont tenté de se suicider, beaucoup de jeunes qui ont complètement décroché au niveau universitaire, avec une forme de culpabilité de fond, alors que ils sont mis dans des situations pas possibles. Quoi, hein. Moi, je rappelle mes années étudiantes, jamais j'aurais fait un an et demi de cours en visio, c'est intenable. Quoi,
hein. Ah bah ça, si on nous avait dit ça, effectivement. Ouais.
Ouais, c'est fou. Et donc voilà, le peu de liens sociaux aussi, c'est quelque chose qui est terrible. C'est une année très pauvre pour eux, là où habituellement, il y a beaucoup de richesses relationnelles, spirituelles qui se déploient au moment de la vie étudiante. La situation est compliquée. Et puis nous, pour les étudiants qu'on voit auprès de nous, c'est vrai qu'on essaye de soigner un maximum hein, leur vie relationnelle et tout cela. Et du coup, ceux qu'on a à la frat ou dans les colloques vont plutôt bien.
Qu'est-ce qu'ils vous disent? De quoi ils souffrent le plus? Vous m'avez dit hors antenne trois mots avant qu'on prenne l'antenne, hein, qu'on avait généralisé le mensonge, on institutionnalisé le mensonge.
Alors c'est ça, je pense qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à déceler, à voir les conséquences sur leur vie, mais quand toute la journée ils font semblant d'être en cours, vous voyez, en se branchant, en se connectant sur internet et qu'il y a un professeur qui donne tant bien que mal un cours avec parfois peut-être 300 élèves qui font semblant d'être là mais qui en fait ne sont pas là, et c'est un espèce de...
Qui fait semblant de faire comme si tout était normal.
Voilà, et puis tout le monde va jusqu'aux examens et en fait ils se prennent des mauvaises notes et ils culpabilisent en se disant qu'ils sont nuls, mais c'est pas possible, c'est pas de leur faute quoi. Et donc là il y a une espèce de mensonge. Quand ils sortent dans la rue et qu'ils doivent donner une excuse bidon parce qu'ils n'ont pas d'attestation aux policiers, ils mentent aussi. Enfin vous voyez, tout il y a cette espèce de torsion de la vérité qui fait qu'à mon avis il y a quelque chose d'un peu difficile pour se construire quoi.
Laure, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous aussi qui côtoyez des étudiants?
Oui, tout à fait, oui, que c'est très difficile pour eux d'accomplir leur devoir d'État correctement. À cause de toutes ces contraintes, effectivement, et puis de trouver aussi des lieux de ressourcement qui correspondent à leurs besoins, quoi. Uh-huh. Vraiment, oui, à cause de toutes ces contraintes.
Et alors justement, comment vous, en tant que pastoral, père, et vous aussi, Laure, différemment, comment est-ce que vous essayez de les rejoindre? Par quelles propositions spécifiques? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pendant cette période?
Eh bien, en fait, l'année dernière, au début du Covid, on a beaucoup investi les réseaux sociaux, les messes en ligne, des enseignements dès le matin pour essayer de les lever, de structurer un peu leur journée.
Et cette
année,
on a
vraiment mis le paquet là-dessus. Et cette année, on a tout mis en présentiel. C'est-à-dire tant que possible, en étant parfois un petit peu plus loin que ce que le cadre nous proposait, essayer de absolument de leur donner des relations réelles, parce que il me semble que c'est ce dont ils ont le plus besoin. Donc on a proposé parfois des repas, par exemple les catéchumènes le mardi midi se retrouvent pour le déjeuner. Il y a des dames d'autres paroisses hein, qui nous font des repas tous les mardis midi, et ça c'est extraordinaire.
Ah oui.
Et voilà, ça nous a permis aussi d'engager pas mal de personnes qui avaient envie de venir en aide aux étudiants. Donc des repas, des sorties, tant bien que mal, parfois à 10, hein, le week-end, pour aller prendre l'air dans les Pyrénées ou des choses comme ça. Voilà, autant de propositions.
Est-ce qu'on parle des étudiants, est-ce qu'il y en a un en tête? Est-ce qu'il y a une réflexion pour vous, père, ou pour vous, Laure, qui vous revient, qui incarnerait bien ce désarroi et, ou bien alors ce raccrochage que vous arrivez à mettre en place pour eux?
Eh bien, en fait, il y a plein de visages qui viennent, hein, mais c'est vrai qu'un étudiant qui, en début d'année, a demandé le baptême, et en fait, il était dans son crous dans 9 mètres carrés, et puis, bah, peu à peu, il est venu un petit peu à la frate au moment du confinement pour pas être tout seul, parce qu'on se disait on va pas le laisser là. Et puis, en fait, il a créé plein d'amitiés, il s'est déployé en fait, hein, dans le service, et puis au niveau de la foi et de son préparation, de sa préparation au baptême, bah, il grandit à vitesse grand V, à tel point que là, 6 mois après, bah, il est en train d'organiser plein de choses pour cet été, pour les autres
Ah ouais.
étudiants, et qu'il a permis aussi pas mal de missions dans les CTU où on allait porter des crêpes au moment de la Chandeleur, et ça a permis de désenclaver un peu les étudiants et de les sortir de leur isolement, quoi.
Oui, ben voilà, sortir de l'isolement. En même temps, il y a une communauté de destin peut-être qui peut aussi ressouder des liens. Alors, vous l'avez dit, sortir de l'isolement, c'était la gageure. Il y en a qui doivent se réjouir aujourd'hui de leur choix, celui qu'ils ont fait en début d'année, de vivre en colocation. C'est le sujet qui nous réunit ce matin. C'est quoi ces propositions de fraternité étudiante que vous faites? Ça consiste en quoi?
Alors, ça consiste à ne pas être une colocation, précisément.
Ah, c'est pour ça que vous riez. Ben voilà, fallait me le dire.
Non, je vous dis ça parce qu'en fait, dès le début, quand je suis arrivé à la pastorale étudiante, on m'a dit ce n'est pas une coloc, parce que dans une coloc, il y a simplement une vie un petit peu organisée. Là, c'est une fraternité. Le but, c'est que les étudiants qui soient là, eh bien, se découvrent frères et sœurs, peu à peu, dans le Christ, hein, et que, bah, il y a cette qualité de relation humaine, spirituelle, et puis grâce à l'accompagnement aussi, hein, d'un prêtre et d'une famille, d'où la présence notamment de Laure et Arnaud Desbazeilles avec leurs enfants, hein, et voilà. Et
C'est
donc.
pas une coloc, mais on est quand même 4 ou 5 jeunes dans un même appartement, on est d'accord jusque-là?
Alors là, en l'occurrence, c'est 9 jeunes,
9 jeunes.
voilà, comme des frères et sœurs, avec un père, avec une famille, et puis avec une mission au service de la pastorale étudiante. Hein. Ça, c'est le principe des fraternités de la pastorale étudiante de Toulouse. Elles sont au nombre de 4 cette année, et notre projet, bien sûr, c'est de les faire, de les démultiplier.
De les démultiplier. Alors, 9 jeunes dans un appart, il y en a 4 des fraternités. Je crois que chacune a plus ou moins sa spécificité, hein?
En effet, nous, au centre-ville à Saint-Pierre-des-Chartreux, le but est d'animer notamment la messe du dimanche soir, hein, la grand-messe des étudiantes qui a lieu à la Dorade en fin de journée le dimanche. Et puis, il y a une fraternité à Rangueil, hein, dont le but, à l'église Saint-Marc, le but est plutôt l'apostolat dans cette partie
Toulouse.
De la ville universitaire.
Mmh.
Et puis, d'autres fraternités qui peu à peu se développent, telles que Saint-Exupère, hein, depuis cette année, où là, il y a une particularité d'école. Écologie intégrale, c'était un thème qui nous semblait très important à promouvoir au sein de la pastorale étudiante. Et puis, il y a une fraternité aussi naissante, Pierre-Georges Frassati, hein, dans un couvent, enfin, pardon, dans un foyer tenu par une sœur dominicaine, sœur Françoise-Marie Léguin, à Rue Joly. Et là, eh bien, cette fraternité Pierre-Georges Frassati porte les activités du club Pierre-Georges Frassati, qui sont les activités en montagne. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, forcément, cette année, vu les
Ah oui.
restrictions.
Ouais.
Et puis, les services auprès des pauvres. Et là, ils ont tenu, tant bien que mal, des belles missions, voilà, au service des personnes isolées.
Alors, des jeunes intégrés sur une paroisse qui vivent ensemble et donc avec cette spécificité également, il y a un couple à côté d'eux, un couple, il y a en fait une famille. C'est votre cas, Laure Desbazeilles, avec votre mari Arnaud et vos 4 enfants. Vous avez fait le choix de vivre avec les étudiants. C'est une expérience que vous avez depuis un an. Pour quelle raison vous avez fait ce choix?
Alors, pour quelle raison? Au départ, on avait reçu en couple il y a quelques années l'appel à partir en mission.
Ouais.
Voilà, donc on a essayé de partir comme beaucoup à l'autre bout du monde,
Ah,
parce qu'on se disait que notre mission
l'appel des
c'était là-bas.
tropiques, ouais, bah oui,
Ouais,
forcément, c'est
exactement.
toujours mieux sous le soleil, ouais.
Et puis ça s'est pas réalisé. Donc on a attendu patiemment, sans spécialement chercher à remplacer cette mission à l'autre bout du monde, jusqu'au jour où l'abbé Damien, il y a un an, est venu
Donc il y a votre
frapper à notre
porte.
porte pour nous proposer une mission à 5 km de chez nous.
Ah.
Et voilà, ça a fait tout de suite écho à ce qu'on avait cherché à vivre quelques années plus tôt. Ouais.
Et alors concrètement, donc vous avez votre appartement, hein, vous n'êtes pas dans l'appartement avec les jeunes, vous conservez votre vie de famille. Quel temps vous partagez avec les jeunes, avec les étudiants?
Alors avec les jeunes, il y a des moments qui sont un peu institutionnels. On se retrouve tous les mardis soirs pour prier et une fois sur deux, une semaine sur deux pour dîner ensemble.
Ah
Et
oui.
puis on passe toute l'après-midi, enfin tout à partir de la messe et puis pour toute la soirée du dimanche ensemble, notamment pour partager ce qu'on appelle un chapitre qui nous permet de faire le point sur la semaine. Voilà. Et puis après, il y a tous les moments non prévus qui sont multiples dans la semaine. Ouais.
Et qui sont probablement les plus riches dans la forme des échanges. Qu'est-ce que vous leur
Ouais.
apportez, Laure, et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Qu'est-ce que vous pensez peut-être leur apporter? Parce que c'est pas forcément ce que vous pensez que vous leur apportez.
Oui.
Suivez.
Alors, ce qu'on apporte, on va dire que, enfin, ce qu'on entend qu'on apporte, c'est le simple témoignage en fait d'une vie familiale. Voilà,
Oui.
de pour eux, enfin, d'avoir à la fois la référence d'un prêtre qui est très proche d'eux et d'une famille qui vit devant eux dans ses faiblesses et puis dans toutes ses joies. Enfin, ils nous témoignent hein, que c'est vraiment un beau cadeau d'observer ça pendant un an. Voilà ce qu'on a pu apporter, je pense aussi au cours de cette année qui était un peu spéciale, bah c'est d'être une maison dans laquelle ils peuvent venir se poser quand il y a besoin pour se confier et puis pour reprendre des forces.
Et ils le font ça, toc toc toc.
Et ouais, complètement, ouais, complètement. Et ça, c'est vraiment des pépites dans notre vie, quoi. Ouais.
Vous êtes un peu une maman de substitution on doit prendre un sacré coup de vieux en même temps au contact de ces grands étudiants quand on s'imagine pas si loin de sa vie étudiante lors des Bazeilles.
Ouais, complètement. Mais ils sont sympas parce qu'ils nous tutoient quand même.
Ah, bah voilà. Bah voilà.
Voilà.
Il y a des échanges sympas qu'on imagine entre vous. C'est quoi leur motivation à eux? Je vous pose la question à l'un et à l'autre indifféremment. Parce qu'on imagine quand on est jeune, quand on est étudiant, qu'on a envie de faire la fête, qu'on a envie de s'arracher justement à ce cocon familial. Pourquoi ils viennent?
Ils viennent effectivement pour peut-être avant tout pour trouver un cadre de vie. Spirituel quoi, je pense, hein, c'est ce qu'on retrouve pas mal, c'est savoir qu'ils seront dans un cadre où ils seront poussés à aller à la messe, à prier, à partager, à parler de Dieu, avant tout, je dirais.
Mais c'est des ovnis alors, les jeunes que vous nous décrivez.
Je dirais, pardon, alors qu'on
Oui,
essaye
oui.
de prendre un peu tous les cas de figure, hein,
Ouais.
voilà, et donc aussi bah, des gens qui sont à différents moments de leur vie spirituelle, hein, mais c'est vrai qu'on essaye de ne pas prendre des jeunes qui sont en première année, parce que parfois, bah, il n'y a pas encore une grande maturité chrétienne, et puis aussi au niveau des études, ça peut être déstabilisant pour eux, hein, d'avoir plein d'études à mener à bien, et en même temps que le service à la frate et la vie fraternelle. Donc, c'est pas tant des ovnis que ça, hein, on prend bien soin d'avoir des jeunes un peu de tout, et puis des étrangers aussi, hein, parce qu'on a cette vocation à accueillir les étudiants étrangers. Donc nous, par exemple, dans notre frat, on a un malgache et une irakienne et une espagnole.
Ah oui.
Voilà. Et donc on essaye de les prendre tels qu'ils sont, mais en tout cas qu'ils aient une motivation de grandir spirituellement. Faut pas se leurrer, il y en a qui, des années passées, sont venus aussi parce que le logement était pas cher ou qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Mais nous, on vise justement à élever un petit peu le niveau d'exigence pour leur dire, bah, si vous venez là, c'est vraiment pour vous mettre au service des étudiants. Parce que y a un énorme enjeu pour nous, quoi. Il y a 110 000 étudiants à Toulouse et qu'on veut les rejoindre et que la situation est assez alarmante. Et donc, voilà, leur dire, bah, si vous venez là, c'est pour grandir, hein, pour devenir saint et devenir
Ils
missionnaire,
arrivent à
quoi.
se conformer à cette unité de vie.
Bah, conformer, c'est un
C'est un
grand
grand
mot, mais en
mot.
tout cas, on essaye
Ouais.
de les stimuler là-dedans, quoi, hein, et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de joie, en fait, à se donner, hein, et à se donner comme frateux. Donc, c'est vrai qu'au début, il peut y avoir ce risque de vouloir organiser sa vie un peu en frate, bien tranquille. Et tout au long de l'année, avec le Covid, je peux vous dire qu'on les a poussés en disant sortez, le pape nous demande de sortir, la situation est dramatique, vous devez sortir auprès des étudiants. Et là, quand ensemble ils font cette expérience, cette joie de cette donnée et d'avoir produit du fruit, c'est extraordinaire. Enfin, je pense que l'heure pourra le dire, mais ensemble, quand en chapitre, voilà, on découvre un peu la joie qu'ils ont de cette donnée.
Ça dure combien de temps la vie dans la fraternité?
Bah, du
Autant
coup,
qu'il le
en
souhaite?
fait, non, non, c'est un an a priori, mais donc c'est septembre à juin, quoi. Hein. Voilà, éventuellement renouvelable, hein, mais en général, c'est un engagement qui est assez prenant et nous, on veut en faire profiter un maximum de jeunes parce qu'on pense que c'est un tremplin pour leur
C'est une
vie humaine.
mission en fait.
Ah oui, clairement,
C'est une mission
oui.
pour eux.
Ouais, de devenir frateux, c'est de rentrer dans une mission. Ouais.
Et alors, vous m'avez dit en préparant cet entretien, Père Damien Verlecq, qu'il y avait en plus un ancrage historique, et vous allez nous le rappeler, et une volonté, au-delà de cette fraternité étudiante dont on parle et qui recrute pour l'année prochaine, d'en faire un axe pastoral important pour les années à venir.
Alors, en effet, depuis un an et demi que je suis arrivé à la pastorale étudiante, on réfléchissait un petit peu à la vision pastorale, hein. On en a discuté avec Monsieur Le Gall, mais aussi avec d'autres prêtres engagés dans la pastorale et des laïcs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'au XIIIe siècle, lorsque l'université s'est créée à Toulouse, eh bien, autour a commencé à germer au long des siècles des collèges où des mécènes, eh bien, donnaient des bourses à des étudiants qui vivaient ensemble. Et puis, peu à peu aussi, des communautés religieuses ont créé des collèges, hein, pour les jeunes étudiants. Et ce qui permettait à des étudiants, eh bien, de pas tomber dans les travers de la vie étudiante, hein, y a des témoignages au cours des siècles où, bah voilà, il y a beaucoup de bagarres entre les étudiants, des étudiants avinés. Donc en fait, ça date pas de la place Saint-Pierre, hein, et des années 80, voilà. Donc il y a toujours eu les mêmes problèmes et du coup, le besoin d'un accompagnement spirituel et humain des étudiants pour essayer de qu'ils puissent se mettre vraiment au service de la société et se rendre compte que la vie étudiante, c'est pas une parenthèse dans leur vie, hein, avant de devenir adulte. Au contraire, ils sont en train de construire l'adulte et qui va porter la société. Et donc, eh bien, nous, on veut redécouvrir un petit peu cette dimension de collège autour de l'université, hein, qui développe la vie universitaire et la vie étudiante qui a du sens, et ils cherchent du sens à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de démultiplier les fraternités, avec des projets de restaurer certains presbytères pour y mettre d'autres étudiants. Il y a des curés qui sont ravis de pouvoir envisager cela. Et donc, on espère démultiplier les fraternités, et à côté de ça aussi, permettre par des colocations, hein, qu'on appelle les géricolocs, il y en a à l'heure actuelle 40, ça représente 200 étudiants, de permettre à des étudiants de vivre dans une colocation, donc pas en fraternité, mais en colocation, avec une prière hebdomadaire, un repas hebdomadaire et un service aussi au sein de la pastorale étudiante ou au sein de leur paroisse. Et ça, eh bien, c'est un beau projet. On se rend compte qu'on peut toucher énormément d'étudiants et qu'on peut résoudre aussi cette question que, vous savez, pendant les confinements, il y a beaucoup d'étudiants qui sont partis, hein, parce qu'ils se sentaient absolument pas de vivre 24 heures sur 24.
Ils crevaient de solitude.
Oui, ou alors de vivre avec des gens, finalement, qui sont pas leur famille, avec qui ils partageaient juste la cuisine. Vous voyez, c'est un peu stressant de se dire, je vais être toute la journée avec lui, confiné avec lui. Et il y a parfois des colocs qui ont explosé d'une manière dramatique. J'ai eu un jour une jeune fille qui m'a dit, ça s'est terminé, en fait, le coloc a essayé de m'étrangler. Et donc mes parents sont venus et le lendemain, je suis parti, enfin le jour même, je suis parti de la coloc. Donc oui, il y a des situations comme ça. Nous, on essaye de promouvoir des colocations et des fraternités, hein, avec une vie qualitative, en fait, une vie étudiante qualitative.
Et ça, inscrit dans une perspective comme il y a très très longtemps, du temps de la création des universités. Si ça intéresse des jeunes parmi ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour vous rejoindre ?
Alors, ils peuvent s'adresser. Il y a un site qui s'appelle Géricoloc, hein, Toulouse. Et donc, ça permet d'entrer vers les fraternités ou vers les géricolocs. Sinon, ils peuvent contacter la fraternité Saint-Marc à Rangueil, la fraternité Saint-Pierre des Chartreux. En fait, sur le site de la pastorale étudiante ou sur Facebook, il y a les contacts. Mais en tout cas, si des étudiants sont intéressés, hein, c'est vraiment ce désir de servir, de grandir, hein, et d'avoir une vie étudiante très qualitative. Et ça, je pense que faut se dire, c'est pas simplement pour avoir un logement pas cher ou une vie bien agréable.
On l'a bien compris, merci beaucoup, et ça permet de ne pas rester seul, surtout dans ces périodes compliquées. Merci beaucoup, Laure Desbazeilles. Il vous reste quelques minutes pour amener vos enfants à l'école. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Père Damien Verlet, d'être venu nous présenter donc ces fraternités étudiantes et ces géricolocs, une solution logement, mais pas que du tout pour les étudiants.